Donc nous poursuivons notre exploration du patrimoine mantais. Et pour ce rendez-vous aujourd'hui, nous vous invitons à explorer la Seine autour de Mantes et bien au-delà également sur toute la vallée de la Seine, du territoire de la vallée de la Seine. Le choix de cette thématique n'est pas anodin puisque nous avons voulu faire écho avec deux expositions présentes actuellement au musée de l'Hôtel-Dieu. Donc je vous invite à venir découvrir voilà une exposition de peinture dont la thématique est le travail. Et c'est une exposition également qui se complète avec celle qui est en ce moment présentée à Vernon, qui a choisi donc la thématique des loisirs. Et puis, par ailleurs, une autre exposition consacrée à la thématique de la Seine également, donc avec des photographies d'Ambroise Thesnas et d'Henri Cartier-Bresson. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder et donner la parole à Roselyne Bussière qui intervient sur cette programmation. Merci beaucoup.
Donc ce soir, je ne vais pas vous parler, ou je vais vous parler moins de Mantes que de son environnement autour de la Seine. Et je tenais à mettre cette photographie en introduction. Évidemment, il ne s'agit pas de Mantes, même si c'est Mantes-sur-Seine. Il s'agit de Conflans-Sainte-Honorine et de sa confluence avec l'Oise qu'on aperçoit au premier plan. Et cette photographie me paraissait bien convenir à l'introduction de ma présentation parce qu'elle résume à elle quand même beaucoup d'éléments qui vont être visualisés au cours de cette conférence, notamment bien sûr l'importance du transport qui a lieu sur la Seine. Ce que vous voyez ici, ce sont des trains de péniche tirés par un remorqueur. Le remorqueur a vraiment marqué la peinture aussi et le paysage de la Seine pendant longtemps, du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. Ce qu'on aperçoit aussi, ce sont les ponts qui sont un facteur extrêmement important de l'histoire du fleuve. Et puis vous apercevez ces petits bateaux qui sont garés juste en face du remorqueur, qui sont justement des remorqueurs, donc on appelait les bleus, qui dit remorqueur, dit des ateliers pour les réparer, enfin tout un système extrêmement important. C'est un milieu de vie, en fait, la Seine, et les gens qui partaient dans ces trains de péniche, donc ici, sont en train de remonter sur Paris, ils partaient pour plusieurs jours. Et plusieurs témoignages qui sont recensés au musée de la Batellerie à Conflans-Sainte-Honorine, raconte que c'était vraiment familial, qu'il y avait des accouchements à bord, des maladies, des décès. Enfin, c'était vraiment une vie familiale très forte et on peut le concevoir étant donné qu'ils partaient pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines, donc tous ensemble tirés par le remorqueur. Donc ceci, c'était en guise d'introduction. Je vais commencer par vous parler du cours de la Seine et vous expliquer pourquoi j'ai une petite légitimité à être ici depuis que je travaille dans le service qui s'appelle l'inventaire du patrimoine. J'ai étudié en fait de nombreuses communes le long de la Seine, notamment le patrimoine de Conflans-Sainte-Honorine, le patrimoine d'Andrézy, de Chanteloup-les-Vignes et de Morcourt. Et puis, ça c'était vraiment des études approfondies du type de celles que je fais à Mantes en ce moment. Et puis pendant 2 ans, j'ai étudié le territoire de l'OIN de Seine-Aval, l'opération d'intérêt national de Seine-Aval, qui s'étend donc de Conflans-Sainte-Honorine jusqu'à Mantes et au-delà jusqu'à la Normandie, en fait. C'est une grosse opération qui est financée par l'État, qui vise à revitaliser les centres anciens, à construire des logements, comme, enfin, c'est récurrent, cette crise du logement. Et donc, comme d'importants changements étaient amenés à venir, on a jugé qu'il était intéressant de faire un diagnostic rapide sur ce territoire. Donc j'ai parcouru aussi tout le territoire entre, on va dire, Poissy et Mantes, et même jusqu'à Bonnières. Donc j'aimerais vous faire part de cette synthèse, finalement, que je veux essayer de faire. Alors ce que vous voyez ici, c'est une carte que je trouve très intéressante, qui vient des Archives nationales, qui vous montre le cours de la Seine. Donc là, tout à fait à droite, ce que vous apercevez, c'est la forêt de Saint-Germain-en-Laye, avec la tache rouge qui est à demi-tronquée, qui est Saint-Germain-en-Laye. puis en ligne droite de l'autre côté, vous avez Poissy, et puis donc le cours de la Seine jusqu'à Mantes, qui est de l'autre côté. Et alors, que nous dit cette carte, donc, qui date du milieu du 18e siècle? Elle nous dit d'une part que les villes n'étaient pas, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ne débordaient pas d'une rive à l'autre. C'est-à-dire, les villes sont soit comme Poissy et Mantes sur la rive gauche, soit comme Triel ou Melun sur la rive droite. Il n'y a pas de, comme c'est le cas ailleurs, il n'y a pas de double côté des villes. Pourtant, les villes de la rive droite, sauf Mantes, mais les autres villes comme Triel, Melun, par exemple, avaient un tout petit bout de territoire du côté de la rive gauche, en fait. C'est très clair à Melun, notamment. Mais les Mureaux, ensuite, ont négocié pour obtenir ce territoire qui s'appelait la Sangle, donc qui a été rattaché aux Mureaux. Et désormais, les Mureaux sont aussi, voire plus importants que Melun. Ce que nous montre aussi cette carte, c'est qui est quand même relativement schématique, il faut bien le dire, c'est que la Seine avait des affluents. Donc, par exemple, on voit bien la Vaucouleur pour Mantes et d'autres affluents tout au long qui rassemblaient les activités nauséabondes, par exemple, comme les tanneries, mais aussi les activités telles que les moulins, parce que sur la Seine même, il y avait peu de moulins, étant donné que priorité était donnée à la navigation. Alors, il y en avait néanmoins sur les ponts, par exemple à Poissy, par exemple à Mantes, mais c'était essentiellement sur les affluents qu'ils se situaient. Alors, naviguer sur la Seine au XVIIIe siècle, c'était une aventure, en fait. Pourquoi naviguer sur la Seine? Parce que sur cette partie de la Seine, donc on va appeler pour faire simple Seine aval, parce que on relie Paris à Rouen. Donc Paris, pas besoin de vous dire que c'est vraiment un lieu de consommation extrêmement important, un lieu de construction aussi. Par exemple, à Conflans-Sainte-Honorine se trouve le banc royal qui a été découvert au XVIIIe siècle, qui est un banc de calcaire très riche et qui par exemple est utilisé pour la construction du Panthéon. Donc il y avait des bateaux qui remontaient la Seine pour fournir le calcaire de construction à Paris. Bien sûr, Paris, il faut l'alimenter, donc les grains, les blés remontent la Seine de manière très abondante. Et puis, ce qui descend la Seine, ce sont les vins, par exemple, qui s'en vont jusqu'à Rouen et voire au-delà. Donc, il y a vraiment un trafic sur la Seine qui est important au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, il sera encore plus important, puisqu'avec la canalisation de l'Oise, de la Seine d'une part, de l'Oise, et le fait que l'Oise est reliée au nord par le canal de Saint-Quentin, eh bien, les productions minières du nord de la France pourront venir soit pour aller vers Rouen, soit pour aller vers Paris. Donc il y a vraiment un trafic extrêmement important, mais ce trafic est difficile. Alors j'ai pris ce dessin dans un livre que j'ai beaucoup utilisé, qui est de Monsieur Le Sueur, Bernard Le Sueur, qui s'appelle Conflans-Sainte-Honorine, histoire fluviale de la capitale de la batellerie, mais qui en fait parle beaucoup plus largement que Conflans-Sainte-Honorine. Et vous voyez donc sur le dessin que j'ai photocopié, on voit toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Alors il y avait des pertuis, il y avait des ponts difficiles, il y avait des bassiers, des graviers saillants, des trémates et des secteurs difficiles. Les petits points que l'on voit, donc ce sont les secteurs, les pointillés, ce sont des secteurs difficiles. Et vous voyez que de Mantes jusqu'à Vernon, donc il y avait plusieurs secteurs difficiles. Alors qu'est-ce qui se passait quand il y avait des secteurs difficiles comme ça? Il fallait faire appel à un pilote, donc qui vous aidait à naviguer, qui vous guidait à travers les hauts fonds, parce qu'il y avait de nombreux hauts fonds. Donc la navigation, c'était quelque chose de compliqué en fait. On sait que sur un bateau qui remontait la Seine, il fallait un chef marinier, trois mariniers et un aide, on va dire, donc plus le pilote de Seine. Donc c'était vraiment quelque chose qui était organisé en fait. On n'allait pas comme on voulait sur la Seine. Donc c'est un élément très important. Ce qu'il faut savoir aussi au XVIIIe siècle, c'est qu'évidemment le cours de la Seine, qui n'est pas encore canalisé, est très irrégulier. Alors, il y a en hiver l'eau qui gèle. Il y a des hivers où la navigation a été rendue impossible par 3 mois de gel. Par exemple, le grand hiver de 1713, mais beaucoup d'autres. En été, il n'y a pas assez d'eau, ce sont les étiages, donc aussi on peut avoir des difficultés à naviguer. Et puis quand il pleut trop, il y a des inondations aussi qui sont dangereuses, notamment au passage des ponts, parce qu'on risque d'être fracassé sur le pont. Donc une navigation difficile, surtout à la remonte en fait. Donc quand les bateaux remontaient, il fallait évidemment qu'ils soient tirés par des chevaux. Donc on voit souvent des représentations d'hommes en train de haler les bateaux, mais ce sont des cas exceptionnels en fait sur de petits passages. L'habitude c'est d'être halé par des chevaux. Donc évidemment tout au long de la Seine, il y a des chemins de halage que vous connaissez bien, et ces chemins de halage, il faut pas croire qu'ils sont tout droits en fait et toujours du même côté, ce qui serait la logique, mais en fait ils changent de bord, de côté, en fonction des difficultés de la navigation. Et donc les chevaux qui halent les bateaux doivent aussi traverser, donc il y a avec des bateaux à fond plat, donc il y a vraiment tout un trafic autour de cette navigation. Alors en voici un exemple. Donc c'est un plan du méandre de Saint-Germain-en-Laye. Donc en bas à droite vous avez Saint-Germain-en-Laye, de l'autre côté Poissy, la forêt de Saint-Germain-en-Laye qui est, vous le voyez à cette époque-là, beaucoup moins développée qu'aujourd'hui, mais c'est un autre sujet. Et puis en haut, donc Conflans-Sainte-Honorine, la confluence avec l'Oise et Andrézy. Et donc cette carte, en fait, est une carte de la navigation. Elle détaille les difficultés qu'il y a à naviguer sur ce fleuve. Alors, je zoome un petit peu sur Andrézy. Donc, vous voyez la confluence de l'Oise, Conflans, et puis Andrézy. Et on voit déjà les nombreuses îles qui existent. Et puis, on voit aussi, en bas, il y a trois sortes de taches marron. C'est un pierret, donc c'est-à-dire un endroit où les pierres affleurent, et quand les pierres affleurent, ça crée un courant, donc c'est un passage difficile, et il ne faut pas que les bateaux, évidemment, aillent de ce côté-là. Donc c'est un élément, enfin la navigation, c'est vraiment quelque chose de difficile qui va être aménagé tout au long du 19e siècle. Alors, comment a-t-on fait donc pour aménager la Seine? Eh bien, on l'a canalisé et on a construit des barrages, donc qui, à partir de 1840, la loi c'est 1838, mais on a construit plusieurs barrages à partir de 1840. Ces barrages, donc, qui sont destinés à faire des sortes de paliers, comme on peut l'imaginer. Mais il fallait quand même, qui dit barrage, il fallait quand même que la navigation continue. Or, ce que vous voyez là, c'est toujours au même endroit à Conflans-Sainte-Honorine, un barrage, le barrage qui a été construit en 1840, qui était un barrage à aiguille. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire, un barrage amovible à aiguille, mais qui n'était pas éclusé. Donc les bateaux ne pouvaient pas passer de ce côté. D'ailleurs, vous voyez bien le train de péniche tiré par le remorqueur, il est passé de l'autre côté. Et ça aussi, c'est un élément extrêmement important. Selon qu'on était du côté de la rive où passaient les bateaux et les remorqueurs ou de l'autre côté, la vision qu'on avait du fleuve était tout à fait différente. Alors, en quoi consiste ce barrage? Il est du type Poiré. C'est un ingénieur POIRE. C'est un ingénieur donc qui avait mis au point ce type de barrage, qui tenait compte du fait que le fleuve pouvait avoir un débit très fort, et en cas de fortes eaux, de fortes crues, le barrage n'aurait pas pu résister. Donc on devait pouvoir le coucher, comme on disait, le barrage. C'est-à-dire, c'était je crois que j'ai mis une voilà. Ça, c'est le barrage que je vous ai montré tout à l'heure, j'y reviendrai, a disparu. Mais ça, c'est un barrage de type Poiré qui existe encore aujourd'hui dans la Marne à Vendières, et qu'on est allé photographier pour bien comprendre le système. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une sorte de structure qui est en métal, donc qui est un trapèze en métal, qui est dans le sens de la navigation, on va dire dans le sens du courant, sur lequel est établie une barre. Et sur cette barre, on met des aiguilles. C'est ce que vous voyez là, des grandes barres en bois, donc, qui sont amovibles. Quand le courant commence à devenir important, on enlève une aiguille sur deux ou une aiguille sur trois. Et puis quand vraiment c'est des hautes eaux, enfin une crue, et où il faut faut laisser les eaux passer, on peut coucher le barrage, c'est-à-dire on enlève toutes les aiguilles. Vous voyez que les équerres sont reliées par des chaînes, on les couche au fond de l'eau, et l'eau peut circuler librement. C'est une activité, ça encore, extrêmement complexe. les barragistes qu'on a vus à l'œuvre là sont reliés avec une, vous voyez le câble en haut, ils ont une ligne de vie, je crois qu'on dit, pour pas tomber à l'eau, parce que évidemment ça se passe toujours quand il y a des crues, donc quand il fait mauvais, du vent, de la pluie, enfin il faut pas tomber. Donc c'est une activité très importante et ces barrages à aiguilles disparaissent de plus en plus. C'était en plus d'autant plus compliqué que là, ce que vous voyez, ce sont des aiguilles, on va dire modernes, qui ont une sorte de poignée en métal qui permet de les saisir. Mais les aiguilles des premiers barrages, elles avaient juste un rétrécissement qui permettait de les saisir. Donc c'était vraiment une activité très compliquée. D'autant plus qu'elles étaient en bois et donc trempées, enfin pleines d'eau et donc très lourdes. Donc c'était vraiment quelque chose de très important. Alors ces barrages qui ont permis de canaliser la Seine, ils ont vraiment changé le paysage de la Seine en fait. D'une part en permettant un cours plus régulier, on va dire un débit plus régulier, donc davantage de passages de bateaux, mais aussi ils ont changé la navigation. Alors je vous ai mis ici ce plan qui vous montre, donc on est près d'Andrézy, et il y a trois barrages dans ce secteur qui ont été établis. Le premier, donc celui qui est ici, c'est l'ancien barrage d'Andrézy, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure en 1840. À Andrézy, il y avait un second barrage ici, le barrage de Denouval, qui était un barrage éclusé. Donc la navigation, alors qu'avant elle passait de ce côté, a été déviée et passait de ce côté-ci. Et les trois îles qui sont ici ont été réunies pour former une sorte de berge, en fait, ou de digue, on va dire. Donc vous voyez un changement important du paysage. Et puis en 1880, on a décidé de créer cette île qui s'appelle l'île de la Dérivation, ici. Et on a à nouveau créé un barrage ici à Carrières. Donc à cette époque, en 1880, on a aussi créé le barrage de Melan-les-Mureaux, dont voici des restes, évidemment, ils ont disparu aujourd'hui. Voici en 1880 un autre barrage, ça c'est pour vous montrer la qualité des aménagements qui étaient faits, c'est le barrage de Méricourt. Donc là on est en aval de Mantes, et donc ce barrage-là, je vais vous le montrer aujourd'hui, il est détruit, et il y en a un autre qui date des années 1960. Mais si vous voyez tout autour, donc la grosse maison que vous apercevez, je sais pas, oui, ici, c'est la maison des barragistes et de l'éclusier. Donc c'est une belle construction. Puis vous voyez tout autour ce paysage qui a été aménagé, qui est d'une grande qualité. Le voilà aujourd'hui, ce barrage de Méricourt. Il a été reconstruit dans les années... c'était aussi l'autre, un barrage à aiguilles, mais celui-ci, donc dans les années 60, on a mis au point des barrages, évidemment, électromagnétiques, où entre chaque pilier, donc on peut abaisser le barrage de manière électrique, en fait. Et aujourd'hui, ça se fait même automatiquement. Il n'y a même plus besoin d'intervention. Il y a juste une surveillance. Alors, en Andrézy, donc, ce barrage que je vous ai montré tout à l'heure, a été reconstruit et le voici. Donc, il a été mis en activité en 1960. Donc, vraiment, la canalisation de la Seine, c'est un moment très important sur ce territoire qui a permis la navigation, une navigation très, très développée. Alors, je reviens à ce plan que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous disais que les chemins de halage pouvaient changer. En 1766, donc, la navigation sur ce territoire-là se faisait selon la ligne rouge que j'ai rajoutée, donc sur la rive gauche, ici, parce que c'était là que se trouvait la partie la plus navigable, on va dire. Donc les chevaux passaient ici, et vous voyez ici, ils devaient traverser à bord d'un bateau pour se retrouver sur la rive droite. Donc c'était vraiment une grosse organisation. Et puis en 1830, par contre, on a changé le cours de la navigation, donc du halage, et on l'a mis sur la rive droite. Et puis avec la construction du barrage Poiré, on l'a remis de l'autre côté. Donc il y a vraiment un aller et retour qui explique parfois qu'on comprenne plus rien à certains moments. Alors cette navigation sur la Seine, donc, elle, depuis le XVIIIe siècle, c'est une chose qu'on a tendance à oublier, elle permettait aussi de transporter des passagers. Alors là, c'est un bateau à vapeur du XIXe, dont la ligne datait de 1834, et on n'est pas en Seine aval, mais on est en Seine amont, puisque vous voyez, c'est marqué de la ville de Corbeil. Enfin, c'est un bateau qui allait de Corbeil à Montereau. Mais il y avait l'équivalent, malheureusement, j'ai pas de représentation, de l'autre côté. Donc, c'était des bateaux à aube qui naviguaient sur la Seine et qui transportaient les passagers. Ils existaient, alors, le transport de passagers existait déjà depuis le 18e siècle, mais concernait plutôt les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, on va dire. C'était réservé aux gens du peuple. Et notamment, entre Poissy et Rolleboise, il y avait un bateau qui s'appelait la Galiote, qui transportait donc, qui était plus commode, on va dire, et plus rapide et moins coûteux que la route royale, donc, et que de prendre la diligence. Et dans la Galiote montaient, par exemple, les nourrices qui étaient allées chercher des enfants à Paris et qui les gardaient chez elles. Et donc, évidemment, elles n'avaient pas des moyens démesurés. Donc, elles prenaient la Galiote. Donc, les passagers voyagent. Et si vous pensez à Flaubert et à l'éducation sentimentale, donc, il y a de grandes scènes qui se passent sur la Seine, justement. Dans la seconde moitié du 19e siècle, deux systèmes, grâce à la vapeur, se sont mis en place pour transporter les marchandises. C'est d'une part le touage et d'autre part le remorquage. Alors, je commence par le touage parce que c'est le premier qui est apparu vers 1850. Le principe du toueur, c'est qu'il y a une chaîne qui est reliée, vous la voyez, la chaîne à l'amont et à l'aval. Et donc, c'est un engrenage, en fait, qui tourne, c'est une roue dentelée qui tourne avec la vapeur, qui est attachée à une chaîne et qui fait avancer le bateau. Ça demande une grosse organisation. Et entre la première chaîne qui a été établie, c'est entre Conflans-Sainte-Honorine et Paris. Et puis, on a une seconde qui a été établie entre Conflans-Sainte-Honorine et Rouen. C'était pas la même. Donc, il y avait une rupture. Et on comprend là pourquoi Conflans-Sainte-Honorine est devenu vraiment un lieu de la capitale de la batellerie. Parce que qui dit rupture dit transit, dit les gens descendaient, ils allaient consommer, ils achetaient des marchandises. Donc c'était vraiment un lieu important. Donc le touage avait un énorme avantage, c'est qu'il n'était pas très coûteux. Son inconvénient, c'est que la chaîne cassait souvent. En fait, elle était relativement fragile. Et donc, assez rapidement, le touage a été remplacé par le remorquage, comme je vous le montrais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un remorqueur? C'est un bateau à vapeur, en fait, qu'on reconnaît à sa haute cheminée, comme vous la voyez ici. Haute cheminée qui est souvent, qu'on peut coucher, parce qu'il faut pouvoir passer sous les ponts. Tous les ponts n'ont pas la bonne hauteur. Et ce remorqueur, donc, tire des bateaux derrière lui, des péniches qui n'ont pas de moteur, elles. Donc, je vous ai montré celui-ci parce qu'il est classé monument historique. Il s'appelle le Jacques. Il a été retapé par une association de défense de la batellerie. Et le voici quand il était en fonction. Donc, c'est une photographie que m'a donné le musée de la batellerie. Vous voyez, il est en train de tirer des... Mais là, on est dans les années 50, hein, on n'est pas au 19e siècle comme tout à l'heure. Alors, qui dit remorqueur dit, bien sûr, des sociétés de remorquage, donc des ateliers pour entretenir les bateaux. Et il y en a deux dont la silhouette est vraiment très forte sur la Seine. C'est celui-ci, c'est l'atelier des Bleus qui se trouve à Conflans-Sainte-Honorine. Et puis, c'est à Andrézy, donc le port des Guêpes. Les bâtiments sont toujours là, de même que celui d'Andrézy que je vous ai montré, est toujours là, de Conflans, est toujours là. Simplement, ils ont été transformés, le premier en logement et le second en autre société. Donc, les guêpes, ben, c'était des petits remorqueurs, en fait. On les appelait ainsi parce qu'elles étaient plus légères et plus maniables que les bleus de l'autre, de la Seine. Et encore une fois, là, un remorqueur n'allait pas de Paris à Pontoise, par exemple. Quand on arrivait sur l'Oise, il fallait changer de remorqueur parce que le remorqueur de la Seine était trop gros par rapport au débit de l'Oise. Donc, vous voyez vraiment toute une organisation extrêmement importante. Après, à partir de 1936, donc le Front populaire va en plus apporter une règle nouvelle qui était la règle du tour de rôle, c'est-à-dire que les bateaux arrivaient à un endroit et ils devaient s'inscrire sur un rôle, donc, et c'est le premier arrivé qui choisissait la cargaison qu'il allait emporter. Ça a été instauré en 1936. Avant, c'était un peu la jungle, on va dire. Et c'est pour ça qu'à Conflans-Sainte-Honorine, il y a cette très, très belle salle qui, malheureusement, n'est plus en activité. Donc, là, c'était la bourse d'affrètement. Alors, je reviens à donc cette photographie. Pour vous récapituler donc le remorquage, vous voyez là, ils vont vers Paris. Ils ont longé la Andrézy, donc du côté de la rive droite. Mais aujourd'hui, si vous êtes déjà passé là, ils ne passent plus sur la rive droite, ils passent sur la rive gauche. J'espère que je me trompe pas dans les rives. Oui, c'est ça. Parce que j'ai un peu de problème. Sur la rive gauche, donc, et du coup, à Andrézy, ce bras qui n'est plus utilisé par les bateaux et qui se termine par un barrage qui n'est pas éclusé, on a l'impression que c'est un plan d'eau, en fait. Ça a changé complètement sa configuration, alors qu'avant, c'était le lieu où passaient les remorqueurs, donc c'était plus industriel, on va dire. Aujourd'hui, ça fait plus plaisance. Alors, un petit clin d'œil sur cette photographie qui, en fait, a été publiée dans l'histoire du Mantois par la société, par le Crédop, je pense, qui a fait 3 volumes sur l'histoire de Mantes et du Mantois. Et c'est un yacht à vapeur, donc, qui a été créé au début du XXe siècle. C'est du loisir, en fait. C'est pour transporter les passagers. On pouvait le louer à la semaine et on pouvait faire des banquets comme on le voit ici. Mais c'est bien un remorqueur puisqu'il a sa haute cheminée. Enfin, c'est un bateau à vapeur. Alors, la batellerie, donc, c'est bien sûr le transport de marchandises, mais c'est aussi la promenade de plaisance, comme vous le voyez ici. Donc, c'est la pêche. Ben, ici, donc, les bateaux de promenade. Là, on est bien à Mantes-la-Jolie. J'aime bien cette carte-ci qui dit « Vois qu'il y a aussi un port à Mantes !» point d'exclamation. Et donc, je pense qu'il s'agit de ce qui se trouve sur l'île qui est en face de la collégiale, donc, où il y avait une activité avec un pont de transbordement, mais c'était pas un port de dimension sur toute la Seine, on va dire. Sur la Seine, on avait aussi ce genre de Seine, mais je trouve pas un autre mot, où les lavandières, donc, qui viennent rincer leur linge dans la Seine. Il y avait aussi des lavoirs, bien sûr, il y avait aussi des bateaux lavoirs, hein, mais peut-être qu'ils étaient trop chers et que là, il s'agit de gens qui n'avaient pas beaucoup les moyens. Alors, il y a toujours, je fais une petite parenthèse, là, je place mes idées à l'occasion, il y a toujours une idée qui plane sur les lavandières qu'on lit ça et là, notamment sur Internet, maintenant dans Wikipédia, qui a l'air de présenter ce travail comme une vraie partie de plaisir. Donc les femmes qui allaient très contentes, en chantonnant, échanger les nouvelles du village tout en tapant régulièrement. Enfin, quand on voit cette image-là, on se dit ça devait pas être si exceptionnel que ça. Bon, je ferme la parenthèse, pardon. Donc voilà un bateau lavoir, hein, qu'il y avait. Et puis hydrothérapie aussi, un bâtiment d'hydrothérapie. Je pense que le titre est plus pompeux que la réalité, c'était des bains-douches, hein, tout simplement. Faut pas oublier que dans les années, là on doit être dans les années 10-20, ben, la carte date est estampillée 1906. Donc au début du XXe siècle, la douche et le bain ils sont vraiment exceptionnels. Hein. Donc les bains-douches, d'ailleurs ça sera l'œuvre de Marabout plus tard qui construira des bains-douches dans les bas quartiers. Alors sur ce fleuve, donc sur lequel passent beaucoup de bateaux à partir du XIXe siècle, il y a des ponts, bien sûr, je ne vous apprends rien. Ce qui me paraît intéressant, c'est que sur ce territoire toujours, de Saint-Germain, de Poissy, pardon, jusqu'à Mantes et au-delà, il n'y avait, jusqu'au XIXe siècle, il n'y avait que 3 ponts. Le pont de Poissy, le pont de Melun, le pont de Mantes. Et ces trois ponts donc étaient des ponts de pierre qui dataient du Moyen Âge, mais avaient été reconstruits à maintes reprises parce que ils avaient subi le gel, les crues, etc. Ces ponts, c'est pas par hasard s'ils sont dans ces trois villes, c'est pas par hasard s'il y a trois villes qui se sont développées à l'emplacement des ponts. Les deux sont liés. Il faut un pouvoir fort pour construire un pont au Moyen Âge. Donc Poissy et Mantes, ce sont des villes royales. Melun, c'est une ville comtale. Le comte de Melun, c'est vraiment un personnage important. Et donc, ça explique cette existence des ponts. C'est aussi important de le signaler parce que au XIXe siècle, donc, les ponts vont se multiplier. Mais pas n'importe comment, en fait, de manière tout à fait logique. Vous allez le voir. Alors, voici le pont de Poissy qui est n'est plus utilisé, sur lequel il y avait des moulins aussi. Donc, un autre pont a été reconstruit. Voici le pont de Melun, qui, dans cette partie-là, est complète, mais n'est pas complet sur toute son tracé. Et puis, le pont de Mantes-Limay, donc, que voilà. Au XVIIIe siècle, vous le savez bien, donc, le tracé du pont de Mantes a été modifié. Alors, pour comprendre pourquoi, il faut savoir que les ponts et chaussées ont été créés au XVIIIe siècle, l'école des ponts et chaussées, et les ingénieurs des ponts et chaussées font des routes et des ponts, c'est leur travail. Ce sont des routes et des ponts d'ingénieurs, c'est-à-dire on va le plus droit possible. Or, ce qui gênait beaucoup, si vous regardez le plan ici, quand on allait avant la construction du pont par Péronnet, quand on allait de Limay, donc de la rive droite, oui, jusqu'à Mantes. Vous voyez le chemin qu'on faisait. Donc, on était ici sur cette route-là, dont je vous parlerai. On traversait de ce côté, puis de ce côté, on arrivait pile sur la collégiale, en fait. Et là, on tournait, donc, pour rejoindre la route. Alors, cette route-là, elle a été créée à ce moment-là. Mais donc, vous voyez, c'était un cheminement un peu tortueux qui ne plaisait pas, évidemment, aux ingénieurs des ponts et chaussées. D'autant plus qu'en 1720 a été aménagée la route royale, en fait, nationale, la route 13, la route royale, puis route nationale 13, qui reliait Paris à Rouen par la rive droite. Je dis bien la rive droite, hein, alors que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, il fallait un pont à la taille de cette route. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est le grand projet de Péronnet. Mais en fait, il n'a pas cette grande radiale ici qui traversait Limay et qui devait rejoindre la route royale vers la Normandie, qui traversait Mantes puis vers la Normandie, n'a pas été construit tout de suite. Comme, alors ça, c'est encore la même chose, c'est la carte de Truden, l'Atlas Truden, donc qui montre ce projet. Mais en réalité, si on regarde le cadastre napoléonien de Limay, donc qui date de 1820, on voit très bien que cette route toute droite, elle n'existait pas, en fait. Donc c'est un projet qui n'a été réalisé qu'en 1855, lorsqu'a été construit l'autre partie du pont qui allait tout droit vers Limay. Donc jusqu'en 1855, quand on a été sur la route royale et qu'on traversait la Seine, eh bien on traversait la Seine donc à Limay. On tournait sur l'île et on rejoignait le grand pont. Donc, c'était encore une circulation un petit peu complexe. Alors, je vous ai dit, il y avait trois ponts jusqu'au XIXe siècle. Au XIXe siècle, c'était des ponts de pierre construits donc par des ingénieurs. Au XIXe siècle, on voit apparaître les ponts suspendus. Trois ponts suspendus ont été construits. Celui de Conflans-Sainte-Honorine qui se trouve ici. Ils sont pas dans le bon sens, hein, mais j'ai pas réussi à les mettre dans l'autre sens. Celui de Triel qui se trouve ici et celui de La Roche-Guyon qui se trouve ici. Pourquoi ces trois ponts ont-ils été construits? Eh bien, probablement, je n'ai jamais trouvé la. Donc on est en 1836-1841. Vous savez que le chemin de fer est arrivé en 1842-43 dans ce secteur. C'est la ligne Paris-Rouen. Le Havre par la rive gauche. Et toutes les communes qui se trouvaient sur la rive droite n'avaient pas d'accès à ce pont, sauf aller à Melun pour traverser la Seine, à Poissy ou à Mantes. Donc ces ponts suspendus, ils ont été construits, à mon avis, pour permettre aux gens de la rive droite d'aller prendre le train à la rive gauche. Et j'en veux pour preuve, dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, il y avait une halte juste au niveau d'Achères. Il y avait une halte qui s'appelait l'Étoile de Conflans. Or, Conflans-Sainte-Honorine se trouve sur l'autre rive. Donc, on a construit des ponts, en fait, pour ça, pour rejoindre la voie ferrée. Alors, comme au XIXe siècle, c'est le siècle des entrepreneurs, ce sont des ponts qui ont été construits par des entrepreneurs privés. Et donc, c'était des ponts à péage et avec une concession à 99 ans. Et au bout de 99 ans, le pont revenait à l'État. Alors, ces ponts, ils ont été reconstruits. Il n'y a pas de pont des années 1840 qui subsiste. Celui-ci, c'est le pont de Triel. Ça donne des ponts extrêmement élégants, en fait, très légers, très élégants, très différents des ponts de pierre. Il a été reconstruit après la guerre. Voici le pont suspendu de Conflans, dont on n'a même pas de reproduction, parce qu'il a été détruit dès 1870. Mais voici un autre pont qui est, lui, va de Conflans-Sainte-Honorine à Andrézy, qui franchit l'Oise. Et j'ai mis cette carte postale pour vous montrer à quoi ressemblaient ces ponts. Donc, on disait que c'était des ponts en fil de fer, c'est-à-dire c'était des ponts de fer suspendus. Mais la chaussée, elle était en bois, comme vous pouvez le voir. C'était des planches. Et lorsque j'ai étudié Conflans-Sainte-Honorine, j'ai trouvé à plusieurs reprises des plaintes des habitants, parce que si les planches étaient un peu vermoulues, ce qui devait arriver, le risque, c'était que les chevaux trébuchent et que leurs cavaliers passent par-dessus bord, ce qui est arrivé à plusieurs reprises. Et c'est pourquoi des habitants ont demandé des barrières, en fait, parce qu'au départ, il n'y avait même pas de barrières. Mais vous voyez, c'est des ponts étroits, une voiture à la fois dans un sens ou dans l'autre, donc c'était quand même assez réduit. Et puis, voilà, ça, c'est le pont de la Roche-Guyon, c'est l'arrivée du pont suspendu de la Roche-Guyon, qui, lui, a été reconstruit dans les années 20, un peu plus en amont, et qui a été détruit pendant la guerre et n'a pas été reconstruit. Et je n'ai jamais trouvé, j'ai pas cherché non plus pendant des heures, jamais trouvé vraiment la bonne explication pourquoi il paraît que c'est un panneau signalétique qui le dit à côté de ce pont. Les habitants ont refusé qu'on reconstruise leur pont. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est parce qu'on lit parfois que c'est pour échapper au Valfouré, mais en 1945, le Valfouré n'existait pas, donc ça peut pas être ça peut pas être une explication. Bon, ils sont plus tranquilles, on va dire. Donc ça, c'était la deuxième génération de ponts, les ponts suspendus d'initiative privée, donc qui permettait de rejoindre, je pense, la ligne de chemin de fer. Troisième génération de ponts, 1882-1884, les ponts à Treilly. Alors c'est le pont de Bonnières qui se trouve ici et le pont de Gargenville qui s'appelle aujourd'hui le pont de Rangiport qui a encore été reconstruit lui aussi. Le pont de Bonnières, voici à quoi il ressemblait. Donc vous voyez, on a bien évolué dans la technologie du pont. Là, on pense à Eiffel, enfin aux treillis, etc., mis en place par les ingénieurs de cette époque-là. Et le pont de Rangiport, il a été reconstruit après la guerre, donc selon un procédé qui s'appelle le procédé Warren, que vous voyez là, qui est très clairement issu de procédés militaires. C'est des ponts de technologie militaire. Alors, ces ponts, à quoi servaient-ils? Donc, je reviens en arrière maintenant. Ils permettaient... Il permettait à la route royale de se développer. La route royale, donc, elle a été construite, je vous l'ai dit, par les ingénieurs à partir de 1720-1730. Mais évidemment, avant, il existait un chemin. Simplement, ils ont aménagé cette route pour qu'elle soit une route royale. Qu'est-ce que c'est qu'une route royale? C'est une route sur laquelle les courriers du roi peuvent se déplacer au galop. Donc, c'est une route qui est pavée. Sur les côtés, il y a de l'herbe pour... les passagers, on va dire les diligences, notamment quand le courrier du roi arrive. Mais priorité est donnée au courrier du roi. Et évidemment, il faut des relais, parce que le courrier du roi, il va très vite. Et donc, elle est ponctuée de relais, et ça donne une physionomie très particulière. Alors, cette route royale, donc qui est devenue la route nationale 13, jusqu'en 1951, elle était sur la rive droite. Quand on venait de Paris... Sur la rive droite, oui, je dis bien ça. Quand on venait de Paris, donc on traversait la Seine à Poissy, Puis on longeait donc la Seine jusqu'à Melun et on retraversait la Seine à Mantes, comme vous le voyez ici. Et à ce moment-là, on était sur la rive gauche. On montait jusqu'à Bonnières. Ici, il y avait une rue de montée qui était à Rolboise, je vais vous en parler. Et puis après, on restait sur la rive gauche. Mais donc, c'est extrêmement important. Ça donne une physionomie particulière à cette route. Comme je vous le disais, les ingénieurs qui l'ont aménagée ont fait droit. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes certainement allé à Triel, et c'est vrai qu'à Triel, on voit très bien à l'extérieur de Triel, parce que quand ils sont passés dans le village, ils ont dû tenir compte quand même de ce qui existait, mais néanmoins, c'est une route droite. Alors, j'ai trouvé intéressant de vous dire comment on voyageait. Donc là, on est au début du 19e siècle. Si vous étiez à Paris et que vous vouliez aller à Caen, donc c'est tous les lundis matin, à 5h du matin, on part de Paris, donc en coche, pour Caen. On passe donc à Saint-Germain à 10h, donc on part à 5h du matin, à 10h on est à Saint-Germain, on est à 11h à Poissy et là on dîne, puis on va à Melun et on couche à Mantes. Donc après une journée de voyage, on est arrivé qu'à Mantes. Là, donc, il y a un relais de poste, bien sûr, et on se restaure et les chevaux se reposent. Et puis, le lendemain, donc, le mardi, on repart à 6 heures du matin. On passe, donc, à Passy, où on déjeune à midi, enfin, on dîne, on dit à l'époque à midi, et on couche à Évreux. Et le mercredi, donc, on repart à 7 heures du matin, et on dîne à la commanderie, on couche à la rivière, ou Thibauville, et puis le jeudi, donc on repart à 6 heures du matin, et enfin on arrive le vendredi à après-midi à Caen. Donc voilà, c'était un voyage qui se méritait. Mais en même temps, c'est important de prendre conscience de ça, donc c'était un voyage très long, donc on comprend l'importance des relais de poste en fait, et quand on lit les romans, on voit bien que beaucoup de choses se passaient dans les relais de poste, c'était extrêmement important. Alors, je voudrais vous montrer à quel point cette activité donc des coches était importante en vous parlant de la ville de Rolboise. Donc, Rolboise, la voici sur l'atlas de Truden dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais je voulais vous montrer la carte d'état-major pour voilà. Rolboise est ici. Donc, on vient de Mantes. On a traversé la Seine à Mantes. On longe la Seine. Là, le coteau se rapproche, donc la route, elle est vraiment en bord de Seine, en fait. Et puis, il faut monter. Il y a une très forte montée, en fait, qui va jusqu'à Bonnières. Ensuite, si on est sur le plateau, à Bonnières, ça va. Donc, à Rolboise, avant la montée, il fallait que les chevaux se reposent. Donc, il y avait des relais. Il y avait un relais de chevaux. Et puis, je voulais vous montrer ça, parce que avant 1720, avant que la route ne soit aménagée, le village de Rolboise, en fait, il était en hauteur, comme le montre mon plan qui est pas très... Voilà, l'église, elle est là, vous voyez, en hauteur, et ici se trouvait le château. C'est d'ailleurs écrit sur le cadastre, l'ancien château. Donc c'était un village en hauteur, on va dire, qui dominait la Seine, pour éviter les inondations, évidemment. Puis la route royale a été aménagée donc le long de la Seine ici, et ça a complètement changé la physionomie de Rolboise, qui a été attirée vers le bas. Et en fait, les maisons se sont construites le long de la Seine, et Rolboise, qui était donc au bas de la côte, où il fallait absolument se reposer avant de monter, Rolboise, c'est un village, il devait y avoir 100 habitants, c'était vraiment tout petit. Voilà une gravure qui vous montre donc en haut l'église, et puis la Seine en bas et la route royale qui passe devant. Et à Rolboise, donc village minuscule, il y avait 5 aubergistes, 4 cabaretiers, 8 charretiers, 2 rouliers, c'est-à-dire des gens qui des transporteurs donc par voiture, 3 cochers, 1 charron pour réparer les charrettes, 3 bourreliers pour le cuir, 4 maréchaux pour les faire des chevaux, 5 mariniers et 1 pêcheur. Donc vous voyez vraiment la Seine, là c'est à générer à Rolboise toute une vie extrêmement importante. Et un paysage, donc, de bord de Seine important. Et on pourrait, en tirant la ficelle jusqu'au bout, dire que la Seine qui a fait naître Rolboise et lui a donné une activité importante, enfin, pas la Seine, pardon, la route royale qui a généré Rolboise, l'a un peu tuée. Parce qu'aujourd'hui, quand on passe en bord de route comme ça, on voit que c'est bruyant, il y a beaucoup de camions, enfin, c'est vraiment un passage difficile. Alors, parallèlement à cette route royale, donc, qui était sur la rive droite, il existait une autre route qui s'appelait la route de 40 sous, qui passait sur la rive gauche. C'est celle que j'ai représentée ici avec le petit trait bleu. Bon, c'est tracé à la grosse un petit peu. Cette route de 40 sous, elle était plus courte que la route royale, mais elle était plus difficile. Elle n'avait pas été tracée par les ingénieurs, donc elle était moins droite, elle était plus montueuse. Et puis, elle avait un inconvénient pour le passage des courriers du roi, c'est qu'elle était fréquentée par tous les jardiniers cultivateurs avec leurs charrettes qui allaient vendre leurs salades et leurs légumes au marché de Poissy et plus loin même à Paris. Et tous les mardis et mercredis, il y avait 700 à 1000 bœufs et 2000 moutons qui passaient sur cette route pour aller à Poissy. Parce qu'évidemment, comment ils allaient à Poissy, au marché de Poissy, marché extrêmement important, à pied. Sauf les veaux. Parce qu'un veau que vous faites marcher depuis la Normandie jusqu'à Poissy, c'est plus un veau quand il arrive à Poissy. Il est un peu dur. Donc les veaux pouvaient prendre la galiote pour arriver jusqu'à Poissy. Mais les veaux de lait, évidemment. Mais les bœufs, eux, ils allaient à pied. Donc vous imaginez ces routes encombrées de maraîchers. Enfin, ça devait être grouillant de vie. Et c'est cette route, la route de 40 sous, qui est devenue la route nationale 13 en 1951. Donc du coup, la route est passée de l'autre côté. Voilà. Donc c'est une histoire, enfin, extrêmement importante. Et si on oublie ça, on comprend pas pourquoi il y a Rolleboise, pourquoi Triel a une route aussi droite. Enfin, c'est vraiment un sujet important. Alors, une autre activité qui est apparue, enfin, un autre mode de transport lié le long de la Seine qui est apparu, c'est le chemin de fer. Alors, le chemin de fer, il est arrivé en deux étapes. Donc, d'une part, en 1842-43, avec le chemin de fer de Paris à Rouen, par la rive gauche, et puis en 1892, la ligne de Argenteuil à Mantes, donc par la rive droite. Et c'est pas anodin, c'est il y a 50 ans qui séparent ces deux constructions. En 50 ans, donc, beaucoup de choses se sont produites, beaucoup de changements, notamment les villes s'étaient agrandies, et la ligne de chemin de fer de 1892 passe davantage au cœur des villes que celle de 1842, qui, sauf à Poissy, où là elle est vraiment au bord de ville, ailleurs a un peu contourné les villes. Et les villes se sont développées en rejoignant la voie de chemin de fer. À Mende, c'est quand même extrêmement net. Alors, cette histoire du chemin de fer, il y a plein de fils à développer qui sont très intéressants. Prenons le cas du maître de poste à Bonnières. Il y avait un maître de poste. Le maître de poste, donc c'était une charge qu'on achetait, hein, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'espèces sonnantes et trébuchantes, parce que les gens venaient et le payaient en espèces. Donc c'était quelqu'un de riche, en fait, un peu un coq de village, qui avait des moyens, et qui était entreprenant. Et donc en 1842, quand est arrivé le chemin de fer à Bonnières, le maître de poste s'appelait Michaud, monsieur Michaud. Son fils, Jules Michaud, qui était sans doute un entrepreneur dans l'âme, a senti que les choses allaient tourner, parce que qui dit chemin de fer dit la mort du transport par relais de poste, enfin par cheval, et donc du coup une concurrence très forte. Donc il a décidé, avant même que les difficultés n'arrivent en fait, de placer son argent. Il a placé son argent de deux manières. En achetant le domaine de la duchesse de Berry qui était à Rosny juste à côté, il a acheté 270 hectares et là il a installé une ferme modèle qui sera ensuite rachetée par Magie en 1901, et à Mantes il y avait aussi une usine, une laiterie Magie. Et puis il a construit une usine de schiste bitumeux qui est devenue le noyau de la zone industrielle. Et si aussi, ici voilà la ferme modèle Magie de Bonnières. Mais si aujourd'hui Bonnières ressemble à ce que vous voyez là, c'est-à-dire une zone industrielle extrêmement active, c'est parce que le fils du monsieur Michaud, donc, a voulu placer son argent. Enfin, c'est vraiment une histoire assez fascinante. Et donc à Bonnières, il y avait l'usine, il y avait des silos, mais il y avait aussi le château d'eau que vous vous apercevez là. C'était l'usine. Ah ben, je croyais que je l'avais mise, j'ai oublié de la mettre. L'usine Singer, donc l'usine de machines à coudre mondialement connue. Donc il y a vraiment toute une histoire liée à ça. Et cette usine Singer, elle a donné lieu elle-même à Bonnières, à ses logements Bonnières et Freneuse, à ces logements, donc qui sont des logements pour les ouvriers. Donc vous voyez comment le fil de l'histoire se développe. Alors voilà, je vous disais que la ligne de chemin de fer, donc de 1842, elle passe un peu sur la rive droite. Donc c'est un détail de la carte d'état-major, ce que vous voyez là. Là, c'est Melun, vous voyez. Et ici, donc, c'est les Mureaux. Vous voyez que la ligne de chemin de fer, elle passe à l'extérieur. Elle sera rejointe ensuite par la ville qui va là, se développer jusque-là et au-delà. Et puis, donc, elle passe là en terrain pas trop construit, on va dire, jusqu'à Mantes. Alors, à Mantes, donc, cette première ligne de chemin de fer de 1842 a donné naissance à une première gare, donc. Alors, pour être plus précise, en 1842, la première gare, c'était Mantes Station, c'est-à-dire elle était à Mantes, la ville. Et puis, en 1855, on a élargi la voie, on a créé un triage, et donc on a construit la gare que vous voyez là, qui est donc une gare de 1855, qui est toujours là, en fait, mais qui est masquée par celle-ci, qui a été construite après 1892, quand est arrivée la ligne par la rive droite. Donc, vous voyez, il y a vraiment... Pour Mantes, il y a vraiment une explosion qui est considérable. Ces chemins de fer de l'Ouest, donc, ils ont donné... la ligne Argenteuil-Mantes, donc, c'est la ligne de la rive droite qui a donné ces belles affiches. Et je voulais un petit peu m'attarder sur Mantes parce que c'est quand même une histoire fascinante. Donc, ça, c'est la carte, c'est ma carte de repérage, en fait, sur laquelle, donc, c'est le cadastre, sur lequel j'ai noté tous les bâtiments que j'ai repérés. Et puis, ce que vous voyez ici, c'est la limite de Mantes sur le cadastre napoléonien, donc on va dire en 1810. Et ce que vous voyez là, c'est la limite de Mantes en 1855. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, le chemin de fer qui est là est arrivé, et Mantes a négocié avec Mantes, la ville, d'acquérir ces terrains. Et regardez, c'est considérable en fait les terrains qui ont été cédés puisqu'il s'agit d'une cession. C'est considérable et ça a permis à Mantes de se doter d'équipements en fait qu'elle n'aurait pas pu placer auparavant, notamment un abattoir qui est détruit mais qui se trouvait ici. Ici une usine élévatrice des eaux qui est toujours là, qui est un vétérinaire, mais enfin qui est toujours là, et puis une usine à gaz aussi, dont on voit encore la paroi qui se trouve derrière. Donc tout ça n'aurait pas pu se développer si Mantes ne s'était pas agrandi. Et après, donc l'étape suivante, évidemment, c'est Gassicourt en 1930. Mais c'est un autre sujet. Mais en regardant cette carte, je me suis dit quand même, Mantes la ville a perdu. Un gros accès à la Seine, en fait. Il lui reste plus que l'accès qui se trouve dans la zone industrielle de la Vaucouleur. Mais là, c'est vraiment Mantes-la-Jolie qui a gagné du terrain. Alors, je sais pas si je suis dans les temps. Oui, c'est bon. Je vais maintenant aborder un autre sujet. Donc, on a vu cette Seine qui servait... au transport des marchandises, qui a été canalisé, la route royale, le chemin de fer. Et évidemment, la Seine, c'est aussi la villégiature qui est extrêmement importante. Alors, cette villégiature, c'est un peu de la provocation, là. Savez-vous, donc, vous reconnaissez Porcheville? Eh bien, savez-vous qu'à Porcheville, il y avait à la fin du 19e siècle une villégiature très importante. Il y avait un boulevard des Parisiens. Comment? Ça veut bien dire ce que ça veut dire, le boulevard des Parisiens. Et donc, ça signifie simplement... Alors là, on est à l'ère du chemin de fer. Donc, ça signifie que les Parisiens venaient en villégiature à Porcheville. Et voilà, par exemple, une des villas que j'ai repérées lors des explorations que j'ai faites, qui s'appelle la villa Écoute s'il pleut. Déjà, le nom, c'est tout un programme. En tout cas, c'est une villa de Parisiens, donc une villa de villégiature. Mais la villégiature, c'est aussi, finalement, la villa Savoie à Poissy. C'était de la villégiature, puisque Madame Savoie avait demandé à Le Corbusier de lui construire une villa sur un terrain exceptionnelle avec une vue à 300, enfin peut-être 280 degrés, mais vraiment une vue exceptionnelle, parce que son fils avait des problèmes de bronches, en fait. Le souci, c'est que, et vous trouverez ce courrier sur Internet, c'est que la toiture, toit terrasse, fuyait un peu, et Madame Savoie envoie des lettres incendiaires à Le Corbusier, en lui disant, Monsieur Le Corbusier, je suis désolée de vous dire, on est là en 1936, donc la villa a 6 ans, mais il pleut dans ma salle de bain, il pleut dans le couloir, il pleut dans la chambre de mon fils, que comptez-vous faire? Donc, c'est une petite anecdote, mais... Donc la Villa Savoie, c'est une villa de villégiature. Et cette villa-ci aussi à Mézy, la Villa Poiré, c'est aussi de la villégiature. Voilà, Madame Popesco après. Là c'est Malé Stevens, c'est extraordinaire. C'est de la villégiature. Évidemment, Poiré, il n'habitait pas là. Il venait là en week-end. Mais ça aussi, c'est de la villégiature. C'est un chalet suisse démontable, une entreprise... qui a déposé des permis construire. Là, on est à Conflans-Sainte-Honorine. Et ça nous met tout de suite dans l'ambiance de la villégiature. Soit ce sont des gens extrêmement riches, comme on a vu tout à l'heure, qui font appel à des architectes et qui font une architecture spectaculaire. Soit on a des entrepreneurs, en fait, qui construisent... c'est industriel. Et là, c'est un chalet suisse démontable. Et on aime bien, quand on est en villégiature, voyager... par l'esprit, si c'est pas réellement. Donc, on a toujours des chalets suisses, des villas asiatiques. Enfin, il y a vraiment une... Ou alors, le Moyen-Âge aussi, c'est une autre façon de voyager. C'est toujours extrêmement important. Alors, vous voyez, ce chalet suisse-là, donc je ne l'ai pas retrouvé à Conflans-Sainte-Honorine, mais j'ai trouvé quand même son petit frère ici. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce pavillon, donc qui servait très certainement... à un ouvrier d'aller le dimanche à la campagne pour cultiver son jardin. Ensuite, il s'est pérennisé et on a construit derrière une maison en dur. Et il y a une communication entre les deux. En fait, donc, c'est la pérennisation de l'habitat, qui était un habitat provisoire relativement bon marché, on va dire, qui ensuite se pérennise. Donc, la villégiature, elle a différents visages, en fait. Elle peut avoir un visage très, très simple. Alors, qu'est-ce que c'est que la villégiature ? Si on essaye de trouver sa définition, le mot lui-même, il n'est pas très vieux, puisque en 1872, on disait que c'était un néologisme. Et ça vient de l'italien villeggiare, ça veut dire aller à la campagne, et c'est le séjour que les personnes aisées font à la campagne pendant la belle saison. Donc il y a l'idée de campagne, très importante, l'idée de belle saison aussi, donc on y va en été, et c'est vraiment... Le fait que ce soit originaire un mot d'origine italienne, c'est aussi une référence très forte. En fait, quand on va en villégiature, quelque part, on pense à l'Italie. Alors évidemment, j'ai mis un exemple exceptionnel. C'est une villa Médicis, une villa des Médicis dans la campagne florentine. Mais vous voyez qu'on aller en villégiature quand on est à Médicis, mais quand on est, c'est la même chose en Vénétie avec les habitants de Venise. Donc on va à la campagne pour se reposer, bien sûr, pour mener une vie, on va dire, entre guillemets, plus simple que quand on est en ville, donc sans trop de manières, on va dire, on est entre soi. Mais surtout, on profite, là, ce que vous voyez autour, c'est un jardin, une vue, il faut absolument avoir une vue quand on est en villégiature. Et puis, il y a des fermes autour, c'est-à-dire qu'on va aussi en villégiature pour surveiller ces terres et pour consommer ce que produisent ces terres. Et ça, donc, que j'ai trouvé... Alors, évidemment, je ne pouvais pas résister à vous mettre la référence absolue de la villégiature, qui est la Villa Rotonda à Vicence, donc de Palladio. Bon, il n'y en a pas l'équivalent sur les bords de Seine, mais quand même, la référence, elle est omniprésente, en Ile-de-France, en tout cas, très important, notamment les quatre faces... qui sont identiques. Donc c'est une villa qui a quatre faces identiques, tournée vers le paysage. Enfin, c'est extrêmement important. Donc pour vous montrer que la villégiature, c'est vraiment un sujet extrêmement important, cet extrait du bourgeois campagnard, donc de Frédéric Soulier, je lis ce qui est au milieu. Le bourgeois de Paris, voilà, c'est un peu plus loin. En effet, de tous les Français, le bourgeois de Paris est le plus champêtre.
Il l'est jusqu'au fanatisme. Boutiquier ou commis, enchaîné derrière un comptoir ou en face d'un bureau, la campagne est le rêve de toutes ces heures. Donc vraiment, c'est un phénomène qu'on trouve bien sûr dans toute la France, mais qui est particulièrement fort dans la campagne parisienne et donc qui va toucher bien sûr la Seine. Alors, un autre chiffre aussi qui est intéressant, ça a l'air d'être une exception française puisque, par exemple, il y a 3 millions de logements aujourd'hui, 3 millions de logements utilisés pour les week-ends, les loisirs ou les vacances en France, alors que c'est 12 fois plus qu'en Allemagne, par exemple. Donc c'est vraiment la résidence, ce qu'on appelle aujourd'hui la résidence secondaire, c'est vraiment un phénomène important. Alors, un exemple de maison, donc, de villégiature, il s'agit d'Andrézy. Andrézy, vous vous rappelez, donc, c'est juste après le confluent avec l'Oise. Là, on est au début du XVIIIe siècle. Le plan que vous avez sous les yeux, c'est un plan terrier qui date de 1731, sur lequel on a rajouté des couleurs, parce que sinon, on ne voyait pas grand-chose. Et ce qui est en couleur, ce sont tous les jardins qui sont liés à des maisons de campagne. Et c'est pas une devinette, enfin on est certain qu'il s'agit de ça, puisqu'à ce plan terrier est associé un terrier qui définit donc tous les noms des propriétaires et les redevances qu'ils devaient verser. On est sur les terres là du chapitre Notre-Dame de Paris. Le chapitre Notre-Dame de Paris donc possédait la seigneurie d'Andrézy, touchait des revenus et les surveillait de près. Ce qui nous a permis, et ces archives ont été conservées, ce qui nous permet de bien connaître la situation. Et donc, ce que dit ce terrier, il dit, par exemple, l'habitant de cette maison-ci, alors que je ne dise pas de bêtises, cette maison-ci, dit, Monsieur Deligny, ordinairement fruitier à la cour de Versailles, mais présent en sa maison de campagne. Donc, c'est vraiment la maison de campagne dont il s'agit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, maison de campagne? Bien sûr, maison à la campagne, mais avec des vignes autour et des jardins. Et donc, c'est un élément extrêmement important. Si on va, n'oubliez pas la complexité de se déplacer, enfin, la longueur, et encore là, on est encore avant la diligence. Donc, quand on a une maison de campagne, on y va en été et on consomme sur place, ces produits. Alors, ces maisons de campagne, elles peuvent être très riches, mais elles peuvent être très simples. En voici pour preuve celle-ci, qui appartenait à un abbé, l'abbé Descartes, si je me souviens bien. C'est juste une maison en L, donc, mais la particularité de ces maisons, c'est d'être tournées vers la Seine. En fait, au-delà de la route que vous apercevez, il y a vraiment la Seine. Elles ont une vue directe sur la Seine, un balcon, donc qui permet d'en profiter, puis vous reconnaissez bien l'ouverture caractéristique du XVIIIe siècle. En voici une autre qui est en mauvais état, mais dont vous voyez, elle a un balcon, et ce balcon, j'ai retrouvé dans les archives une mention qui dit « un balcon composé de dalles en pierre sur trois consoles en fer ». Donc il est vraiment là. Le tout couvert d'un petit auvent, malheureusement il a disparu, à deux égouts, couvert en ardoise, supporté par deux pilastres en treillage, le dit auvent orné de treillage. Donc c'est vraiment un balcon tourné vers la Seine où on s'asseyait pour profiter du spectacle. Donc la villégiature et la Seine, c'est un spectacle extrêmement important. Alors voici un autre exemple aussi. Dans ce plan terrier, il était fait mention d'un belvédère au milieu des vignes. Alors c'est pas celui-ci, pas que je raconte d'histoire, mais j'ai trouvé l'équivalent, puisque celui qui était décrit se trouvait ailleurs. Mais voici donc un belvédère qui était au milieu des vignes, qui permettait à la fois de profiter du paysage, le paysage viticole, c'est vrai que c'est très beau quand on le regarde, il n'y a qu'à aller en Alsace ou en Bourgogne, et puis de profiter de la vue sur la Seine. Donc c'est vraiment un élément important. Alors, toujours à Andrézy, parmi les maisons de campagne, il y avait celle-ci. Alors, elle a été transformée en école à la fin du XIXe siècle. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est une mairie-école. Mais avant d'être une mairie-école, c'était, comme vous le voyez ici, elle est là, elle est ici, c'était la maison de campagne de la comtesse de Marsan, qui était la préceptrice des enfants de France, des enfants de Louis XV. Et donc, elle avait une maison de campagne, et vous voyez à quel point la Seine est aménagée pour cette maison de campagne. Donc, l'île que vous avez devant ici était aménagée, lui appartenait, et elle était aménagée pour qu'elle profite de cette île, et même au-delà, sur la rive gauche, donc la vue se prolongeait encore. Donc la vue, c'est vraiment un élément extrêmement important de la villégiature. Alors voilà ce jardin, donc aux archives nationales, on a des plans qui montrent, c'est un jardin tout à fait organisé, avec un labyrinthe, enfin, avec un petit kiosque aussi, qui permettait d'aller prendre des collations lorsqu'il faisait chaud. Et voilà la vue qu'on avait depuis la maison. Donc là, cette aquarelle montre la vue, vous voyez, qui s'étend au-delà de l'île. Donc le panorama, le belvédère, tous ces mots-là qui sont des mots italiens, en fait, sont des éléments extrêmement importants. Alors voilà, à quoi ressemblait cette école, donc mairie école, qui a d'abord été maison de campagne. J'ai pas de représentation au 18e. Au 19e siècle, elle ressemblait à ça, et à mon avis, on était déjà plus proche de la maison de campagne de la comtesse de Marsan. Et elle a été à un moment usine, donc le maire d'Aimé, et vous voyez qu'il fabriquait des jouets atmosphériques. Est-ce que vous savez ce que c'est que des jouets atmosphériques? Des pétards, en fait, tout simplement. Donc bon, c'est une petite anecdote. Alors quand je dis que le belvédère, c'est vraiment un élément extrêmement important de la villégiature, donc voici, on est toujours en Drésie, cette maison, elle a été construite par Madame Marsh, qui est une riche américaine, en 1908, et donc elle a un belvédère. Hein, mais ce belvédère-là, voilà la vue qu'on en a. Donc vue d'amont et vue d'aval. Donc, le belvédère, quand on monte à l'intérieur, par contre, c'est pas terrible, comme vous pouvez le voir. En fait, il n'y a pas de place. Il y a juste un énorme escalier qui permet d'y accéder, et tout autour, vous voyez un tout petit passage. Ce qui me pousse à dire que ce belvédère-là, il n'était pas destiné à monter pour profiter de la vue. En fait, c'est une sorte de manière de montrer qu'on est en villégiature. Il est destiné à être vu de l'extérieur. C'est un artifice pour dire « je suis en villégiature ». Alors, en voici un autre belvédère là. On est à Conflans-Sainte-Honorine. C'est carrément un immeuble belvédère. On est sur les bords de l'Oise. Cet immeuble, il a été construit par Mélériot, qui sont des joailliers parisiens bien de la place Vendôme, enfin bien, qui devaient avoir plein d'autres résidences d'ailleurs. Et donc là, le belvédère, c'est le toit. On est en 1910 aussi. C'est tout le toit est entièrement organisé pour comme belvédère. Vous voyez, il y a une balustrade, et donc c'est un élément extrêmement important. Alors quand je vous disais que donc il était important de voyager un petit peu, voilà ce chalet Les Vikings à Carrières-sous-Poissy, donc qui a été construit à la fin du 19e siècle, et qui fait référence à l'architecture nordique, on va dire, et c'est pour ça qu'il s'appelle Les Vikings. Il est vraiment, lui, en bord de Seine. Et là, la vue, elle est directe. Enfin, il n'y a pas besoin de belvédère, puisqu'on est carrément au bord de Seine. La référence à la Chine aussi, alors c'est le pavillon chinois d'Andrézy. Ce que vous apercevez à gauche, c'est donc la maison en elle-même, sur laquelle a été ajouté ce pavillon chinois, donc, qui était destiné à abriter un billard. Parce que si le belvédère est un élément incontournable de la villégiature, le billard l'est aussi. C'est un signe qu'on est en villégiature. Donc toute personne bien qui veut montrer ce qu'elle est, donc doit avoir un billard. Là, le billard, il est d'inspiration chinoise, on va dire. Enfin, juste parce qu'il y a des dragons au-dessus du toit, mais en tout cas, c'est un élément important. Et même dans ce pavillon qui s'appelle la Pinsonnette, donc qui est tout petit, enfin, qui est pas très grand en tout cas, qui est un Maurecourt, et bien derrière, il y a une sorte de hangar avec un billard. Donc c'est vraiment le signe que c'est un signe de la villégiature. Alors profiter de la vue, donc c'est bien sûr construire tous ces belvédères, tous ces kiosques pour profiter de la vue tout en étant là. On est vraiment à Andrézy, en bord de Seine. Vous voyez, ça, toutes les fantaisies sont permises pour profiter de cette vue. Le belvédère de gauche, je vous l'ai déjà montré. Celui de droite, il se trouve à Rogny, à Châtillon, en fait, enfin dans la ferme, à côté de la propriété de Châtillon. Et donc, c'est un kiosque de la belle époque, on va dire. Et voici la vue qu'on a de ce kiosque. Donc, c'est extraordinaire. Vous êtes en Île-de-France. bien sûr, pas très loin de la Normandie, mais quand même. Et ce que vous voyez au fond, ce sont les falaises. Donc la Seine fait un grand méandre. Ce sont les falaises de la rive droite, donc qui sont à côté de l'Arche-Guyon. Et donc au premier plan, vous avez la Seine qui fait une courbe comme ça. On voit bien là que la vue sur le fleuve est vraiment un élément extrêmement important. Alors, ces gens donc qui voulaient aller à la campagne, donc en voici encore un exemple. C'est le château du Failly à Andrézy, toujours château au milieu des bois là, mais au milieu des cultures aussi. Et il a été acheté et transformé par Monsieur Roy, qui était un le voici Eugène Roy, donc qui était un homme d'affaires parisien qui venait là en été. Et alors, je trouve que c'est important de le signaler, c'est que cette ligne de chemin de fer dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelait Conflans, enfin cette station qui s'appelait Conflans Étoile, qui était sur la rive gauche et à laquelle on ne pouvait aller qu'en franchissant le pont, lui, tous les matins, il avait un cocher, donc il l'emmenait à Conflans Étoile, où il pouvait aller à Paris pour faire ses affaires et il revenait le soir. C'est dire que avant le chemin de fer, la villégiature, elle est quand même réservée à des gens qui ont les moyens et qui sont pas tenus d'arriver à 9h pile au bureau, sinon ils sont mis à la porte, parce que il devait quand même y avoir des impondérables. Un autre exemple aussi qui est très intéressant, c'est cette ferme donc que vous avez ici. On est toujours à Andrézy. C'était la ferme du chapitre Notre-Dame de Paris dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été achetée par Monsieur Lepic, qui était un militaire au service de Napoléon, c'était son aide-de-camp, et son fils a été aide-de-camp de Napoléon III, donc c'est bien une famille parisienne qui vient en villégiature en Andrézy. Et le fils Lepic est mort, son petit-fils, dont vous connaissez peut-être le nom, qui est Ludovic Lepic, le peintre, lui, il a fait un peu les 400 coups. Il n'avait plus les moyens d'aller en villégiature Andrézy, ou peut-être que ça ne l'intéressait pas. En tout cas, il a besoin d'argent. Il fait un bail, il loue un bail pour 9 ans, donc la propriété dont il a hérité. Et il précise dans le bail qu'on lui livrera chaque semaine un panier de légumes. Donc on est revenu à ce que je vous disais tout à l'heure. Au XVIIIe siècle, on allait dans sa villégiature pour profiter des produits de la terre. Au XIXe siècle, c'est encore considéré comme étant extrêmement important. Si je vous parle des mureaux, je suis pas sûre que vous pensiez d'emblée à un endroit de villégiature non plus. Eh bien, si. Regardez cette magnifique maison qui est en bord de Seine. Comment ? Oui, qui a été construite par Saunier, l'architecte Saunier, qui est l'architecte qui a construit la chocolaterie Meunier, donc de l'autre côté, hein, en 77. Dans Seine-et-Marne. Et donc, c'était vraiment une maison de villégiature ici, avec la photographie ne le montre pas, mais ici, il y avait un accès. La Seine, elle est vraiment là. Là, c'est le chemin de halage, en fait. La Seine, elle est à deux pas. Et donc, il y avait un garage à bateaux, en fait, qui permettait d'aller directement sur la Seine. Donc, vous voyez, cette villégiature, elle donne lieu à des constructions tout à fait exceptionnelles. Les mureaux, je ne sais pas si vous le savez aussi, a été le lieu des Jeux Olympiques en 1924 du yachting en 1924, et tout simplement parce que aux mureaux il y a ce club, donc qui est toujours là d'ailleurs, Club Nautique de Paris, qui a été construit en 1882 et qui est toujours là. Donc vous voyez vraiment, là j'essaye de faire une transition vers la Seine en tant que pratique, parce que donc au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, on admire la vue de la Seine, puis petit à petit, on descend et on va se mettre à la pratiquer, c'est-à-dire à faire du yachting, à pêcher, comme le montre cette photo, cette carte postale. Donc ici, vous voyez des bateaux qui s'appellent souvent des yoles. Et voici un texte de Maupassant qui dit donc qu'en 1883, il passait en Andrézy en yole, bien entendu. Après avoir contourné l'île et donné un coup d'œil au barrage de Findoise, je fis demi-tour et j'eus le désir d'aller sur cette bande de verdure entourée d'eau, prendre un peu le frais et me reposer. Donc là, vraiment, on est dans la pratique du fleuve. C'est un élément extrêmement important. Je reviens. Tout à l'heure, je vous ai montré cette maison construite par la riche américaine Madame Marsh, par l'architecte Sardou, qui avait un belvédère donc qui était juste destiné à montrer qu'on est en villégiature. Regardez donc ce plan qui vous explique que la pratique sportive est vraiment devenue extrêmement importante. Donc la Seine se trouve en bas. Vous voyez qu'il y a un embarcadère, donc ici un pavillon qui permet de. Et puis ici un embarcadère. De l'autre côté, ici, c'est marqué l'île d'en bas, et là, c'est marqué le golf. Donc on pouvait aller pratiquer le golf de l'autre côté. Ici, il y avait une pergola qui permettait de profiter de la vue. Il y avait un tennis. Et puis quand même, de l'autre côté, il y avait le potager. Donc on est bien dans cette double activité du sport, de la villégiature que je vous ai montré. Plus on avance dans le temps, plus on se rapproche du fleuve et plus on se baigne dans le fleuve. Donc là, on est à Elisabethville, qui est donc une plage qui a été construite, une station de villégiature, c'était la plage de Paris, qui a été construite dans les années 20. Et là, elle est vue, la plage est vue depuis la rive droite. Donc, et ce que vous voyez, c'est les aménagements. C'était une plage qui était quand même au nord, en fait. On allait s'y baigner. Je vais vous en parler un peu plus longuement. Donc, cette villégiature, elle a donné lieu à des constructions qui font référence quand même beaucoup à l'Italie, comme celle-ci, qui est appelée dans la revue dans laquelle elle est publiée, une modeste maison de campagne à Villennes-sur-Seine, qui est vraiment en bordure de Seine. Donc, la voici. Donc, vous voyez que là, le belvédère. C'est plus un belvédère, en fait, c'est une tour, mais on peut plus profiter de la vue. C'est juste le signal de la villégiature. Et alors, j'étais pas, il y a pas très longtemps sur les bords du lac Majeur, j'ai pas pu résister à photographier cette maison. Bon, évidemment, elle est plus grande, mais on voit bien quand même la référence italienne de la maison précédente. Amante aussi. Donc, cette maison, chalet Amante, comme c'est indiqué ici, donc qui a été réalisé par Monsieur Cozart. Et qui a été publié au début du XXe siècle. Alors, je ne suis pas sûre à 100% que c'était de la villégiature, parce qu'on est quand même en centre-ville, on est rue Castor, voilà. Mais en même temps, ça s'appelle chalet. Même si ça n'est pas de la villégiature, ça montre bien que c'est la référence à la villégiature. Alors, la voici, bon, vous la connaissez bien. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle n'a pas bougé. Elle est inchangée Il y a l'environnement, bien sûr, qui la domine un peu, mais elle-même, elle n'a pas changé sa barrière et ses épis de fêtage, enfin, tout y est. Puis en voici une autre aussi. Alors celle-ci, elle a été publiée, donc elle est rue d'Alsace, elle a été publiée Petite maison de campagne, quand même. Donc voilà. C'est pareil, je ne suis pas sûre que c'était une maison de villégiature, quoique Mantes, au début du XXe siècle, donc n'était pas une ville très très importante, donc peut-être qu'on y venait en villégiature. En tout cas, là aussi, on sent bien qu'il y a une volonté de voyager. Là, une référence italienne, peut-être aussi un peu d'Afrique du Nord, me disaient les propriétaires. Moi, je suis moins convaincue, mais l'influence italienne, en tout cas, elle est très forte. Et pour finir, donc, je voudrais vous parler un petit peu des îles, parce que tout au long de la Seine, donc la Seine, elle est aussi façonnée par ces îles. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le plan, c'est ce qu'on appelle la carte des... Pardon, ma voix s'en va. La carte des chasses, donc, qui date de Louis XV, du règne de Louis XV, et qui est extrêmement intéressante. Et vous voyez ici, donc, on est au Mureau. En face, donc, il y a Melun. Et puis, cette île qui s'appelle l'île Belle, dans laquelle il y avait une très grande propriété, donc qui se développait tout au long de l'île. On rejoint un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure avec cette propriété d'Andrézy qui était dans l'île, que je vous remontre ici. Cette île qui est ici, là, qui était aménagée en jardin comme ça, voici à quoi elle ressemble aujourd'hui. On n'est quand même pas très loin de la villégiature non plus. Hein, et les gens qui habitent sur cette île sont obligés, alors c'est pas de la villégiature, mais ils sont obligés de prendre le bateau pour aller chercher leur courrier, enfin pour sortir de leur île. Bien sûr, il y avait l'île aux Dames à Mantes, donc qui avait été aménagée comme un lieu de promenade avec une promenade ombragée sous les peupliers qui était extrêmement importante. Il y a l'île du Platet, donc qui se trouve près de Vilaine, dans laquelle, à partir de 1928, a été installé un centre de naturistes. En fait, ce que vous voyez là, c'est un village de naturistes, donc dans lesquels on se rendait régulièrement. Donc voici les logements. Il y a le lotissement de l'île de Mignot. Donc en fait, ça va, merci. Le lotissement de l'île de Mignot, on est à Poissy, là, à Poissy. Et donc, vous voyez, c'est cette très longue île que vous apercevez ici, qui a été lotie, c'est-à-dire découpée en morceaux, et qui était un lieu de villégiature, comme le montrent ces très belles villas donc, du début du XXe siècle qui ont été construites. C'est une île dans laquelle on ne peut aller que par en franchissant ce pont. Et c'est une île privée, en fait. C'est vraiment une résidence privée. Alors aujourd'hui, c'est plus trop de la villégiature, c'est de l'habitat permanent. Mais quand ça a été construit, c'était de la villégiature. Voilà encore un autre lieu de villégiature, c'est l'île verte à Jusier-Mézy. Pareil, lotissement. Et pardon pour ma photo qui est pas très bonne, parce qu'il pleuvait ce jour-là. Mais vous voyez, c'est des cabanons, en fait, enfin, ou ces chalets suisses qu'on voyait au début du XXe siècle. Là, on est dans les années 70-80 et ils sont toujours là. Je peux pas résister au plaisir de vous parler de Venise. Donc, l'île de Vaux-sur-Seine en 1910 s'appelait Venise. Et vous voyez, en bas, c'est écrit Venise à 43 minutes de Paris et à 3 minutes de la gare de Vaux-sur-Seine. Donc, c'était une île dans laquelle on pouvait aller canoter et puis manger, enfin. Donc, la référence au voyage est quand même extrêmement importante. Des îles avec piscine, l'île de Vilaine, donc piscine extrêmement... Je crois qu'elle est plus en activité aujourd'hui. Hein. Ils sont en train de la... Une très, très belle piscine, donc construite dans les années 30, qui était, quand on a fait l'inventaire, donc dans les années 90, elle était encore en activité, comme le montre. Donc, Oui, bah oui, forcément, il fallait y aller en bateau. Et pour terminer, donc je voudrais faire une petite incursion sur Elisabethville, plage de Paris. Donc, qu'est-ce que c'est qu'Elisabethville ? C'est une station balnéaire, en fait, comme le montre cette image-ci. Donc, vous voyez, Elisabethville sur la Seine, qui a été construite sur le parc d'un château. C'est un homme d'affaires belge qui s'appelle Ramoisy, qui a acheté le château et qui a décidé de faire une affaire, en fait, en lotissant une partie du terrain, donc, pour construire une station de villégiature. Alors ça, c'est la photographie au début de... Vous voyez, c'est pas encore très densément construit. Donc, on est dans les années 30, en fait. Et cette villégiature-là, elle est donc destinée à la baignade dans la Seine. Donc, voilà les petites maisons d'origine. Donc, c'est vraiment une villégiature simple, en fait. Vous voyez, des petites maisons, petits pavillons, tout à fait, qui sont construits en série et qu'on pouvait acheter sur plan... comme c'est le cas aujourd'hui, c'est intéressant. Il y avait un casino qui aujourd'hui est l'église et le temple d'Elisabethville, mais c'était un casino. Alors c'était un casino pas au sens où on pouvait jouer de l'argent comme le casino d'Anguin, mais un casino où on pouvait jouer aux cartes, où on pouvait aller prendre un verre, où il y avait un dancing au sous-sol pour danser. Enfin, c'est quand on a une station de villégiature, le casino c'est incontournable. Enfin, c'est... Et ça a été cinéma, tout à fait, cinéma. Et puis après, il y a un kiosque à musique, bien sûr, pour un grand parc avec un kiosque à musique pour aller profiter des concerts. Et il y a un grand hôtel. Alors, pardon, là, il est pas très grand, mais quand même, il y a un hôtel qui s'appelle le Gibouin, donc qui était un hôtel qui permettait d'aller en villégiature à Elisabethville. Et l'idée de génie de Ramoisy, donc qui était belge, comme je vous l'ai dit, ça a été de demander à la reine Elisabeth de Belgique de devenir la marraine de sa station, et ce qui a attiré quand même du beau monde, et notamment ce qui lui a permis de construire la très belle église. J'ai pas pensé à mettre une photo, l'église d'Elisabethville, donc, qui a été construite par Paul Tournon, grâce à des fonds en partie collectés par des œuvres de charité de la haute société belge. Et donc voilà cette plage, donc qui était très, vous voyez bien, très bien aménagée, avec une avenue qui s'appelle l'avenue de la plage. Et si vous allez encore à Elisabeth, le boulevard de la plage, si vous allez encore à Elisabethville, vous voyez le boulevard de la plage, c'est extraordinaire, et qui vous conduisait donc par une allée plantée de peupliers vers cette plage où il y avait des cabines. Si la photo ici. Donc il y avait des cabines comme au bord de la mer. Et puis un peu plus tard a été construite une piscine dans les années 50. Et là, il y avait aussi un grand hôtel, bien sûr, pour profiter de ça. Mais revoilà Elisabethville. Mais comment ? Voilà l'église. Là, il s'est passé quelque chose. On était dans les années 30, donc 20-30. Et puis en 1946, donc est arrivée cette énorme chose qui est ici, là, qui est l'usine de Flin, en fait, qui en fait est surtout sur Aubergenville, mais enfin qui s'appelle l'usine de Flin. Donc usine Renault, bien sûr, et ça me permet de faire la transition je vais finir là-dessus sur l'industrie. Donc ce que vous voyez là au premier plan, c'est les allées courbes, les rues en courbe du plan d'Elisabethville, et puis donc cette belle église qui a été construite. Et juste derrière, ce sont les résidences des ouvriers, alors des cadres de Renault, donc qui étaient là. Donc voici une très belle photo. Qui montre ce que c'est aujourd'hui, donc des villas tout à fait intéressantes. Il faut savoir qu'au plus fort, en 1982, il y avait 18 000 personnes qui travaillaient à Flin, donc c'en était fini de la quiétude d'Elisabethville et de la plage. C'est pas chronologique, mais c'était pour faire la transition. Évidemment, la Seine, elle a attiré aussi les usines. Alors, en voici un exemple, la papeterie de Gassicourt, donc la papeterie Bronstein, qui s'est installée en 1892 pour fabriquer du papier, notamment du papier très fin, papier à cigarette et papier pour envelopper les objets en métal, en argenterie. Et donc, cette papeterie, elle avait une machine à vapeur, mais elle avait besoin donc de combustible, donc d'où son implantation en bord de Seine. Elle avait besoin de chiffons pour alimenter sa papeterie, et elle avait besoin d'eau. Et cette eau, elle avait creusé un très grand puits, donc pour récupérer des eaux filtrées qui lui servaient. Elle les avait d'ailleurs en abondance, puisqu'elle les redonnait à la ville, je crois, de Mantes. Et puis, je ne peux pas parler, parce que c'est vraiment lié à ça, de l'industrie, sans parler de Poissy. Donc ce que vous voyez là, c'est des usines Simca, qui sont devenues les usines Peugeot, et le château d'eau qui est là, c'est le château d'eau Simca, donc on est avant la guerre, et ces usines, donc aussi, c'était 20 000 ouvriers aussi. Donc toute l'histoire de la Seine, elle est aussi liée à ça, enfin 20 000 à l'apogée, hein, elle est liée à ça, donc, et le Val-Fouré, et enfin toutes ces constructions-là sont importantes, mais c'est pas un hasard si elles se sont installées en bord de Seine, parce que à ce moment-là, le transport par barge est apparu, et donc toutes les automobiles produites, bien sûr il y a la voie ferrée, mais il y a aussi les barges qui permettent de transporter les automobiles. Et puis il y a l'usine de la cimenterie de Gargenville, donc plus grande cimenterie d'Île-de-France, qui a été installée par Paulier Chausson en 1921. Alors là, c'est la Seine, là, elle sert à transporter en fait le ciment. Donc c'est le transport qui permet de le générer. Bien sûr, la centrale de Porcheville, donc que je vous montrais tout à l'heure sous un autre aspect, qui est aussi présente parce qu'il y a l'eau de la Seine qui permet de refroidir. Et pour terminer, donc j'ai un collègue qui a fait un diagnostic sur le patrimoine industriel de Seine-Aval. Donc il a quand même repéré 118 sites industriels, dont 71 usines sur le territoire de Seine-Aval, donc de Vaux-sur-Seine à Port-Vilaise. Donc c'est vraiment l'industrie, c'est vraiment un élément très important. Je vais m'arrêter là. Pour simplifier les choses, j'ai pas mis à chaque fois le copyright, mais je voulais vous dire que les photographies que je vous ai montrées sont de Laurent Cruzy, qui est photographe, qui travaille avec moi, qui est un excellent photographe. Et puis ce que je vous ai dit vous intéresse, vous pouvez retrouver des publications qu'on peut feuilleter en ligne. Donc on a publié des images du patrimoine sur ces territoires-là, mais vous pouvez les feuilleter en ligne aussi à cette adresse-là. Et le travail que je suis en train de faire sur Mantes sera bientôt en ligne sur cette base aussi, donc si vous voulez le voir, vous pourrez le regarder. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Merci.
Monsieur le syndical, j'ai quelque chose à vous demander. Vous avez parlé des franchissements de la Seine. Pont en pierre, pont étoile, pont moderne, mais il y a aussi les bacs.
Oui, oui, c'est vrai, j'aurais pu en parler.
Et le bac de ma commune, le bac de Guerne, a aussi une histoire depuis la fin du 19e. Hein.
Tout à fait, oui, oui. Et avant les ponts, il y avait des bacs, bien sûr.
Et le bac a aussi un rapport avec la villégiature. Parce que les Parisiens prenaient le train jusqu'à Rosny, franchissaient la Seine et s'installaient dans les petites maisons qu'ils construisaient le long de la Seine et des bras de Seine.
Bien sûr. Oui, oui.
Parce que la commune de Guerne possède le plus long kilomètre de berges de la Seine. Bras compris.
Le plus long métrage
de berges de Seine.
D'accord.
Parce que juste après, il y a le barrage de Méricourt.
Oui, oui, tout à fait.
J'ai un ami qui possède d'ailleurs de très belles photos de la construction du premier barrage.
Du premier barrage.
Donc, le premier barrage à Aiguille. Hein. Mmh. Voilà.
Oui.
Sinon, c'était très bien, merci. Voilà.
Merci de cette... C'est vrai que
oui,
j'aurais parlé des bacs. Vous avez
de
bien
passage.
Fait de...
Merci.
Avant les ponts, il y avait des bacs, effectivement. Merci.
Merci à vous.